S'adressant aux Philippiens, l'apôtre Paul, dans sa lettre, leur écrit « Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou être déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix, car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. Alors je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi et je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. » Et Paul conclut, « Nous tous qui sommes spirituellement adultes, ayons cette même préoccupation. » Mes amis, c'est sans doute en pensant à ce texte qu'un père de l'Église du IVe siècle, un chrétien et un théologien grec remarquable qui venait du nord de la Grèce, en Cappadoce, nommé Grégoire de Nice, ville précisément de Cappadoce, a écrit ce qui suit. Écoutez bien. « Celui qui court à la rencontre du Seigneur ne s'arrête jamais, allant de commencement en commencement par des commencements qui n'ont jamais de fin. » Eh bien oui, voilà ce qu'aujourd'hui, j'aimerais que nous comprenions nous aussi en ce début d'une année nouvelle. Celui qui court à la rencontre du Seigneur ne s'arrête jamais, dit Grégoire, allant de commencement en commencement par des commencements qui n'ont jamais de fin. Oh, je sais bien que pour la plupart de nos contemporains aujourd'hui, recommencer, devoir recommencer, c'est souvent le signe d'un échec. On reprend la tâche depuis le début parce que la tentative précédente n'a pas abouti. Grégoire de Nice, lui, en a une compréhension très différente. Pour lui, recommencer toujours, c'est un élan positif qui nous anime pour nous approcher inlassablement de Dieu qui se tient près de nous et qui nous attend. Mais bien entendu, cet élan doit donc continuellement être revivifié, renouvelé. C'est chaque jour que Dieu nous veut dans sa présence pour nous bénir, pour nous fortifier, pour nous faire du bien. Demeurez en moi, nous dit Jésus, et je demeurerai en vous. C'est en Jean 15. Notre élan vers lui, il nous faut donc constamment le raviver. Or, cette dynamique de constant recommencement ne concerne pas seulement notre rencontre avec le Seigneur, que nous n'avons jamais fini de connaître en vérité, mais concerne aussi nos relations avec les autres, à commencer par ceux qui nous entourent et par nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Eh bien, cette idée précisément, Grégoire de Nice la développe en particulier dans ses commentaires sur le Cantique des Cantiques, un livre de l'Ancien Testament, où, vous le savez peut-être, ce chant d'amour prend les contours d'un dialogue entre Dieu et la personne humaine. Un dialogue qui ne peut que rester balbutiant pour nous, face bien sûr à l'infini de la bonté de celui qui toujours nous cherche et nous parle. D'où la nécessité de reprendre constamment ce dialogue avec lui. Grégoire est un bon connaisseur de la vie spirituelle du chrétien, convaincu, je le cite encore, que la fin d'une découverte devient, dit-il, le commencement de la découverte de bien plus haut encore. Une conviction qu'il partage d'ailleurs avec bien d'autres chrétiens anciens qui ont témoigné eux aussi de leur expérience de la plénitude de la présence et de l'amour de Dieu chaque jour renouvelé. Ainsi, l'un d'entre eux, resté anonyme, a ainsi pu dire « Jusqu'à notre dernier souffle, une voix nous crie « Aujourd'hui, recommence !» c'est de commencement, un commencement qu'on avance dans la quête de la lumière de Dieu, elle-même porteuse de joie. D'ailleurs, souvenez-vous, au matin de Pâques, un jour sans nul autre pareil, les femmes venues au tombeau reçoivent justement l'ordre, non pas de rester sur place, mais de se mettre en mouvement, de repartir pour, je cite, « aller annoncer, dit Jésus à mes frères, qu'ils doivent partir pour la Galilée, et là, ils me verront. » C'est en Matthieu 28. Et l'on peut lire à la fin de ce même évangile qu'ils ont fidèlement exécuté cette directive et que les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Alors, quand ils le virent, ils se prosternaient. L'apôtre Paul, Grégoire de Nice, Matthieu et tant d'autres encore, bref, tous insistent donc sur la nécessité de faire mouvement pour rencontrer Jésus ressuscité. Et puis, quand vient ensuite pour lui le moment de partir pour le ciel, lui nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Mes amis, où pouvons-nous le voir en ce début d'une année civile nouvelle? Quelle est cette Galilée personnelle où nous avons rendez-vous avec lui? C'est l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, qui nous donne une piste. C'est en Romains 8. « Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. » C'est l'Esprit Saint qui nous conduit vers la rencontre avec le Christ et qui nous mène vers ces multiples Galilées où nous pouvons nous prosterner devant lui pour l'adorer et le servir. Oui, Dieu nous conduit par son Esprit. Dieu veut nous guider et nous conduire, comme il l'a toujours fait. Ainsi, souvenez-vous de cet épisode de l'Ancien Testament. Il nous est rapporté en Exode chapitre 40, alors que Moïse avait construit sur ordre du Seigneur la tente de la rencontre, c'est-à-dire le tabernacle, que la nuée vint recouvrir la tente et la gloire du Seigneur remplit la demeure. Alors pour leurs déplacements successifs, les Israélites ne se mettaient en route que si la nuée s'élevait au-dessus de la demeure. Mais si la nuée ne bougeait pas, ils ne partaient pas. Ils attendaient le jour où elle s'élevait. Ainsi le Seigneur manifesta sa présence aux Israélites par la nuée qui enveloppait la demeure pendant le jour ou par le feu qui brillait pendant la nuit, et cela tout au long de leur voyage vers la terre promise. Mes amis, nous pouvons certainement nous inspirer du symbolisme de cette nuée, en hébreu c'est le mot « hanan », qui a si mystérieusement indiqué le chemin au peuple, un chemin vers la terre promise, le faisant tantôt s'arrêter, et même parfois longuement, et tantôt se lever et se déplacer, imprimant par là même le rythme de la marche sous la conduite de Dieu, qui sait les temps, les circonstances et les moments. Et tous allaient donc de recommencement en recommencement. En effet, nous dit le livre des Nombres cette fois, quand la nuée s'élevait du dessus du tabernacle, les Israélites levaient le camp et repartaient. Et quand la nuée ne s'en élevait pas, ils ne partaient pas, attendant le moment où elle s'en élevait, indiquant que le Seigneur leur disait alors de se remettre en route. Ce passage du livre des Nombres évoque les arrêts, les remises en marche du peuple observant la nuée. Je cite encore, « La nuée recouvrait donc la demeure, appelée aussi le tabernacle. Elle devenait lumineuse la nuit. » Et chaque fois que la nuée s'élevait au-dessus de la tente, les Israélites levaient le camp pour aller s'installer à l'endroit où la nuée allait se poser. Ils levaient le camp sur l'ordre du Seigneur et ils le réinstallaient également sur son ordre. il ne déplaçait pas le camp tant que la nuée restait sur la demeure. Et si la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les Israélites obéissaient au Seigneur et ne partaient pas. Les Israélites n'installaient et ne levaient le camp que sur l'ordre du Seigneur. Il est évident, mes amis, que ce mode particulier de présence et de conduite voulu par Dieu pour son peuple alors qu'il était dans le désert exigeait une attention et une vigilance continue pour pouvoir répondre rapidement à l'imprévisible mouvement de la nuée et pour garder confiance surtout en la présence protectrice de Dieu. Et cela, bien sûr, leur était rappelé quand les arrêts leur paraissaient trop longs et que le but à atteindre leur semblait inatteignable. Exode 14, verset 19, nous dit, je cite, « Que l'ange de Dieu marchait devant le peuple, accompagné de cette nuée, et en cela qu'elle était surtout le signe privilégié de la bonté et de la fidélité active du Seigneur de l'Alliance. » Plus tard, les textes prophétiques et les psaumes, et d'autres encore, mentionnent à plusieurs reprises ce même symbolisme de la nuée, pour illustrer par exemple aussi que si Dieu semble parfois se dérober aux attentes de son peuple, c'est du fait de ses fautes et de l'infidélité du peuple aux engagements de l'Alliance, conclue au Sinaï et maintes fois renouvelée pourtant. Et puis, le Nouveau Testament également, dans un langage analogue, reprend parfois ce même signe de la nuée qui accompagne à certaines grandes occasions une manifestation de Dieu qu'on appelle une théophanie. Et cela en particulier à Marie qui enfantera après, nous dit le texte, que le Tout-Puissant l'ait couverte comme d'une ombre. C'est en Luc, chapitre 1, verset 35. Et puis, manifestation de la nuée aussi lors de l'épisode de la Transfiguration, en Matthieu, chapitre 17. Et puis, bien entendu, au moment de l'ascension de Jésus. Quant à Paul, il utilisera également le symbolisme de la nuée, mais alors pour évoquer le baptême, comme par exemple en 1 Corinthiens 10, et avec d'autres écrivains sacrés aussi, pour décrire le retour glorieux du Seigneur à la fin des temps. La nuée, un signe du projet bienveillant que Dieu a pour les siens, est le signe de sa présence active au milieu d'eux. Il veut les guider, et il nous dit ainsi son accessibilité. Dieu se fait proche, et il nous dit aussi sa souveraineté, lui qui de là-haut veille sur nous et prend la peine, en somme, d'écarter les nuées pour descendre nous rejoindre et nous redonner vie et espérance malgré nos infidélités et notre misère. En ce début d'année, au moment où nous allons repartir, recommencer en somme, tout cela avec Grégoire de Nice, avec Paul, avec les textes sur la nuée, tout cela nous rappelle que pour aller de l'avant et marcher sur le chemin que le Seigneur veut nous indiquer, l'amour et la connaissance de Dieu ne s'apprennent qu'en étant à l'écoute, attentif aux indications que lui veut nous donner. Autrement, comme le dit le livre des psaumes, c'est en vain que nous pourrions construire ce qui ne tiendra pas. Il s'agit de vivre l'aujourd'hui de Dieu. Et c'est donc au quotidien qu'il nous accordera sa grâce et sa force. C'est bien entendu pour nous aujourd'hui, dans la lecture de la Bible et dans une vie de prière personnelle et communautaire, que le Seigneur d'abord nous attend pour nous rencontrer et nous indiquer la route à suivre. Oui, il nous attend les uns et les autres, mais dans une disponibilité libérée de la peur et des nostalgies, car il s'agit de vivre l'aujourd'hui de Dieu. Et c'est donc au quotidien qu'il nous accordera sa grâce et sa force, tout comme il l'avait fait pour son peuple avec la manne dans le désert, offerte sans qu'on puisse la stocker, tout comme il l'a fait donc aussi avec la nuée et le feu la nuit dans la nuée qui guidait le peuple. Et cela, je le souligne, selon des rythmes qui appartiennent à Dieu et qui exigeaient du peuple une totale obéissance et une pleine vigilance. Nous pouvons donc nous en inspirer, comme d'un modèle, pour vivre et avancer en chrétien aujourd'hui. Car la foi et l'espérance ne sont bien sûr pas quelque chose que l'on possède, mais un cheminement qui connaît des passages lumineux et puis des zones d'ombre aussi, des horizons ouverts et des sentiers tortueux parfois et même incertains. Et de temps à autre, il est vrai, la nuée qui nous conduit et nous protège peut nous apparaître beaucoup plus enveloppée d'obscurité que lumineuse. Mais même dans ces moments difficiles, en nous, le feu de l'Esprit veut continuer de brûler, de rayonner et nous redire que, dans la nuée, le feu de la présence du Seigneur n'a jamais manqué, ni ne manquera pour ses enfants, où qu'ils soient et quoi qu'ils puissent traverser aujourd'hui. En ce début d'année nouvelle, il s'agit donc de repartir avec confiance pour un voyage inconnu, un peu comme Abraham qui partit, nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, sans savoir où il allait. Il avait fait confiance à Dieu. C'est un cheminement et une marche qui requiert de nous confiance, obéissance et persévérance, qui nous sont d'ailleurs rendus possibles du fait même que notre Dieu nous offre tout à nouveau, à chacun, sa communion d'amour infini et parfaite qui nous attire à lui. C'est par elle, par son amour fidèle, qu'il travaille par son esprit à nous transformer intérieurement et qu'il le fera tous les jours de cette année, si nous le voulons bien. C'est donc par sa présence agissant en nous, celle de son esprit, affirme l'apôtre Paul, que nous pouvons dire « Abba, Père », que nous sommes en relation avec lui. Et le Seigneur nous montre qu'il veut, par son esprit, nous configurer au Christ lui-même et qu'il nous a établis dans la filiation du Père pour que notre vie, en effet, peu à peu, soit conforme à la sienne. En d'autres mots, nous dit l'Écriture, c'est là le chemin de la sanctification. C'est vivre de la vie du Christ en union avec lui, en communion avec lui, jour après jour. Cela consiste à demeurer en Christ, comme le cep est attaché au sarment de la vigne, nous avait dit Jésus en Jean chapitre 15. Alors associé à sa mort et à sa résurrection, de manière unique et personnelle, pour mourir et ressusciter constamment avec lui, pour vivre de sa vie. Le dessein du Père, c'est le Christ, et nous en lui, pour porter du fruit et être celle de la terre, lumière du monde, témoin de son amour. Frères et sœurs, pour cela, il nous faut écouter ce que nous dit l'Esprit Saint et le laisser agir, obéir à sa voix, comme Israël suivait les indications de la nuée. Il s'agit de collaborer avec lui, littéralement de travailler avec lui. Paul le dit en Romains 8, nous avons des obligations, mais non envers la faiblesse humaine pour vivre selon sa logique. Mais si par l'Esprit Saint, nous faisons mourir le comportement de notre être égoïste, nous vivrons. Car toutes les personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Littéralement, je l'ai dit tout à l'heure, l'expression en grec dit « ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu ». Le verbe, la phrase est au passif, pour souligner qu'il s'agit bien de nous offrir à Dieu pour que lui nous purifie et que lui puisse accomplir son travail en nous sans y trouver d'obstacle. La suivance du Christ c'est-à-dire notre vie chrétienne, requiert donc, encore une fois, cette ferme résolution, chaque jour renouvelée, de nous offrir tout entier à celui qui nous a tout donné. Suivre Jésus, c'est d'abord écouter sa voix et agir en conséquence. Il s'agit de mettre ses pas dans les pas de Jésus, comme on dit, ce qui suppose une ferme résolution, encore une fois, de lui faire confiance et de lui obéir, de se laisser faire, laisser travailler par lui, de consentir et de collaborer à ce qu'il puisse lui agir en nous et nous conduire par son esprit. Être attentif à son appel et se mettre en marche, telle sera ma conclusion, suppose donc bien de vouloir faire la volonté de Dieu. Alors, avec sincérité, interrogeons-nous sur ce point et méditons cette parole de Jésus. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Mes amis, que le Seigneur nous bénisse et nous renouvelle dans nos recommencements sincères et dans notre marche de chaque jour avec lui. Amen.